Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Jésus? Nous voulons faire la différence. Dites à la personne à côté de toi, tu es appelé à faire la différence. Parce que tu es différent. Et comme tu es différent, fais la différence. Dans un monde de désespoir, fais la différence. Dans ta famille, fais la différence. Au travail, fais la différence. À Montréal, fais la différence. Au Québec, fais la différence. Au Canada, fais la différence. Dans ta vie personnelle, tu es appelé à faire la différence. Montre-le aux gens que tu es différent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Faire la différence dans un monde sans espérance. Est-ce que vous savez qu'on a besoin, nous sommes dans un monde où les gens cherchent les gens différents. Faire la différence dans un monde sans espérance. Hier, j'étais en train de parler, hier je vous ai parlé sur les dernières paroles qu'un individu peut dire. Et hier, j'avais bien parlé sur ça. Hier, j'avais expliqué que quand quelqu'un est en train de mourir, chaque personne aimerait bien entendre ses dernières paroles. Les dernières paroles. Et ce sont souvent les dernières paroles que les gens gardent de ce que quelqu'un a dit. Hier, j'étais en train d'expliquer sur ça. Dans le monde entier, quand quelqu'un veut mourir, il dit toujours les dernières paroles. On dit que c'était sa dernière volonté. Et vous voyez, vous pouvez lire dans les livres des grands acteurs, des personnes de grande renommée qui ont existé sur la terre, que des gens, qu'ils soient grands socialement ou petits socialement, mais chaque personne a toujours dit un dernier mot avant de rendre son âme. Et les gens considèrent cela. Des notaires considèrent cela. Tout le monde considère la dernière volonté de quelqu'un, le dernier mot qu'il a dit. Et hier, j'étais en train de vous expliquer, nous considérons tellement les dernières paroles que les gens ont dit, mais on n'a jamais, en tant que nous chrétiens, considéré les dernières paroles que Jésus a dit. Si les hommes considère les dernières paroles que les gens ont dit avant de mourir. Hier, j'étais en train de vous expliquer. Nous, les chrétiens, nous sommes complètement éblouis dans les trucs, dans, je ne sais pas dans quoi, et nous ignorons les dernières paroles que Jésus a dit avant de retourner au ciel. J'aimerais bien que nous les lisons. Je répète, nous considérons beaucoup les dernières paroles que les gens disent avant de partir, avant de mourir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la dernière parole que Jésus a dit avant de retourner au ciel doit être la cible de notre foi. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons tous ensemble. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Attends, on arrête d'abord là. Puis il leur dit, allez, marquez bien, allez. Allez, hier j'avais beaucoup expliqué sur aller. Nous avons vu que les disciples ont bouleversé le monde entier. Les disciples sont sortis parce qu'ils ont compris le vrai sens du mot aller. Et non? Les disciples sont sortis parce qu'ils ont compris le vrai sens du mot aller. Et ils ont agi selon aller. Et je vais vous dire quelque chose, que quand vous lisez dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, je ne sais pas sur quel chapitre entre 5, vous allez voir que les gens qui n'ont pas compris ce que Jésus-Christ a dit d'aller, les gens, les disciples qui n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait dire par aller, vous savez comment ils ont compris cela? ils ont compris par la persécution. La persécution leur ont fait comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire sur aller. Il y a ceux qui ont compris ce que Jésus voulait dire aller, mais il y a d'autres qui n'ont pas voulu comprendre. Et vous savez comment ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté par une persécution. On a commencé à tuer des disciples. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit non, notre place n'est plus là. Il faut qu'on court. Et en courant, partout où ils allaient, ils restaient la bouche ouverte. Ils parlaient de Jésus. Qui est là? Ah oui, ceux qui ont voulu faire la tête, ceux qui ont voulu résister à l'ordre divin, allez, c'est la persécution qui les a suivis. De Jérusalem, ils sont sortis en courant parce qu'on commençait à les tuer. Ils partaient en courant. Vous savez, il y a d'autres persécutions. Ne pensez pas que ça vient toujours du diable. Alors, quand tu es trop stable, il faut qu'on secoue ta stabilité. Quand tu es trop figé dans ton confort, à un certain moment, il faut qu'on bouscule un peu ton confort. Et les disciples étaient dans leur confort à Jérusalem. La Bible dit qu'ils allaient constamment dans le temple. Ils allaient prier. Voyez-vous, ils allaient seulement dans le temple. Tous les jours, ils allaient dans le temple. Mais Jésus-Christ n'a pas dit « allez dans le temple ». Il les a dit « allez ». Prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit aller rester dans le temple. C'est bien d'aller dans le temple, mais votre suite n'est pas dans le temple. Vous devez sortir dehors. Qui est là? Jésus dit bon, vous passez votre temps dans le temple, c'est bien, mais vous ne savez pas que le temple est seulement pour vous nourrir. Le temple est seulement pour vous réconforter. Mais votre destinée n'est pas le temple. Vous devez sortir dehors parce qu'ils sont dehors. Et comme ils ne voulaient pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, la Bible dit que la persécution a commencé. Et c'est là où ils ont commencé. On commençait à les chercher. Qui on va tuer? Qui on va tuer? Finalement, ils ont dit, en tout cas ici, là, il faut qu'on sorte. Et ils ont commencé à courir. Samarie, Judée. Mais une chose que j'ai trouvée terrible, c'est qu'à chaque ville, à chaque endroit, ils fuyaient la mort. Hein? Ils fuyaient parce qu'on les persécutait. Mais à chaque ville qu'ils arrivaient, normalement, quand on vous persécute à cause d'une cause, normalement, vous devez tout faire d'éviter cette cause. Mais eux, au lieu d'éviter cette cause, c'est le contraire. Au fur et à mesure, on les poursuivait. C'est cette cause-là qui sortait. Au lieu de dire, attends, on nous persécute, on veut nous tuer à cause de cela, mieux vaut que nous fermons nos bouches et nous serons en paix avec tout le monde. Mais eux, non. Au fur et à mesure, ils couraient, ils ouvraient grandement leurs bouches et disaient, c'est Jésus-là, l'homme de Galilée, que vous avez crucifié. Dieu l'a réellement ressuscité. Les gens disaient, en bon. Finalement, la foule ne faisait qu'agrandir. Béni soit le nom du Seigneur. Je reviens. Le dernier mot que Jésus-Christ a dit, c'était, il a dit, allez partout dans le monde. Il a dit, allez. Les amis, hier je le disais, les enfants de Dieu, les chrétiens, une église, je parle bien, je ne veux pas dire les églises, je dois dire un enfant de Dieu. J'aimerais bien que ce soit d'une manière personnelle, du caméraman, du personne qui est à la table du mixage, qu'au chantre, au prédicateur, tout le monde, au chef de l'accueil, à l'accueil, tout le monde, à ceux qui sont assis, veut dire ce message est pour chacun de nous. Les amis, je vais vous dire quelque chose. 10 personnes seulement qui, soi-disant, des gagnants d'âmes, ne peuvent pas gagner le monde entier. Qui est là? 10 personnes seulement, 15 personnes dans une église, 20 personnes, ne peuvent pas amener une foule de moissons. Allez, Jésus-Christ a dit, allez, c'est allez-là était pour tous les disciples. Pour tout disciple. Et un disciple, c'est qui? C'est un disciple, c'est celui qui a cru en Christ, qui marche selon sa parole. Il devient un disciple. Et ces commandements-là, allez, appartient à tous. Si vous êtes 500, si vous êtes 1000 personnes, veut dire c'est aller là. C'est le mot d'ordre que Jésus-Christ a donné à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Aller doit résonner dans le cœur, dans les oreilles de chacun de nous. Aller. On continue à lire. Il dit prêcher la bonne nouvelle. Hier, j'avais expliqué qu'on ne nous demande pas d'aller prêcher quoi? La mauvaise nouvelle. Et j'avais bien dit que souvent les gens se méfient de Jésus, se méfient de l'évangile, parce que nous leur apportons au lieu de la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle. Hier, j'avais expliqué un peu comment nous apportons la mauvaise nouvelle. Nous arrivons quelque part, nous disons, laissez le tabac, laissez l'alcool, laissez l'adultère, laissez ceci. On pense que c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, hier, j'avais expliqué, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Hier, j'avais expliqué, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas Jésus, mais ils respectent leurs femmes. Ils sont fidèles à leurs femmes. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Il y a beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas une goutte d'alcool dans sa bouche depuis qu'il est né. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il est sauvé? Non. Il y a beaucoup de personnes, ils savent vivre en société. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont sauvés? Non. Alors la bonne nouvelle n'allait pas dire laissez l'alcool, laissez l'adultère, laissez ceci, ça c'est rien. Il faut aller dans la racine. Hier j'avais expliqué que les gens, béni soit le nom du Seigneur, il faut présenter Christ et toi tu n'es pas Christ. Présente Christ. Quand Christ entre dans le cœur de quelqu'un, lui va faire le travail. Le travail. Tu n'es pas à mesure de convaincre qui que ce soit si ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez les erreurs que nous commettons. Les gens fuient. Les gens ne sont pas prêts à suivre une mauvaise nouvelle. Les gens sont prêts à suivre une bonne nouvelle. Mais quand tu vas avec l'intimidation en leur disant « si tu ne laisses pas ça », tu iras en enfer. Si tu ne laisses pas ceci, tu n'iras pas à l'enfer. Si tu ne laisses pas ceci, mais tu commets le nombre de personnes qui ne font jamais ça. Mais ce n'est pas pour autant le ciel est ouvert pour eux. Le ciel s'ouvre dans la vie de quiconque reconnaît que c'est un pécheur. Parce que nous sommes tous des pécheurs par nature. Tu peux ne pas commettre d'autres choses qu'une grosse liste que les gens connaissent. Mais tu peux être vraiment un pire au fin fond de toi. Tu peux être bien dans d'autres choses, dans d'autres côtés, tu es complètement un maudit. Alors, la personne, qui qu'elle soit, la source de tout, c'est que la personne reconnaisse que c'est un perdu. Et dire à Jésus, Jésus, sans excuse, viens dans ma vie. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Nous devons faire bien la part des choses. Nous devons faire attention de ne pas apporter la bonne nouvelle, d'amener la condamnation, ou bien de dire à quelqu'un, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Ce n'est pas en laissant ça, 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 qu'on est sauvé. Non, on est sauvé en disant, Jésus, viens dans ma vie. Aide-moi, sauve-moi. Allez, premièrement, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, j'avais bien insisté, la bonne nouvelle, comme je suis en train de le dire, continue. Il dit, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui croira, voyez-vous? Première chose, il dit, celui qui croira. Il dit, dans la foule. Hier, j'étais en train de dire qu'actuellement, nous sommes maintenant 7 milliards. 7 milliards sur la planète Terre. Il y a 7 milliards de terriens sur la Terre. Il dit, si c'est 7 milliards, hier, j'étais en train de dire, si l'enlèvement sonnait aujourd'hui, pam, pam, je ne sais même pas si 1 milliard partirait. Je le dis, que si la trompette sonnait aujourd'hui, pas, je ne suis pas sûr que c'est 1 milliard même partirait. Je ne suis pas trop sûr. Parce que dans la foule que vous entendez des chrétiens, il y a des chrétiens de nom. Mais ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ils sont... Alors vous voyez un peu, il y a 7 milliards. Actuellement, on ne parle que de cela. 7 milliards, 7 milliards. La terre a maintenant 7 milliards. Mais maintenant, nous les chrétiens, on doit se poser la question. Vous savez, je vous ai dit, de quelqu'un, je vous ai parlé la fois passée, de quelqu'un qui avait vu la vision. Il est arrivé au ciel, il voit le Seigneur Jésus. Alors, il est étonné. Au lieu que le Seigneur se réjouisse quand il l'a vu, le Seigneur pleurait. Il lui pose la question, mais Seigneur, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, viens, je vais te montrer. Alors, il lui montre les lacs de feu. Il voit comment des milliards de personnes entrent dans le lac de feu. Alors on lui dit, tu veux que je me réjouisse? Tu vois ce que j'ai accompli à la croix? Tu penses que mon Père a mis ce lac de feu pour tous ces milliards de personnes? Non, il a préparé ce lac de feu pour Satan et ses anges. Ce n'était pas pour l'homme qu'il a créé à son image. Mais maintenant, vous, mes enfants, qu'est-ce que vous faites sur la terre? Regardez ce que vous faites sur la terre. Tout ce que vous voulez, c'est votre ego. Parce que personne ne se soucie de ce que j'en dirais à la croix. Regardez le lac de feu, les milliards de personnes qui s'en vont. Et tu veux que je sois content? Les amis, ça c'est quelqu'un qui a vu cela. Pas une histoire, mais quelqu'un qui a vu cela dans une vision. Les amis, c'est normal. Le Seigneur ne peut pas être content en voyant que lui, il est mort à la croix pour que tous ces milliards soient sauvés. Et puis finalement, nous qui sommes appelés à aller, nous, nous croisons nos bras. Non. Quelque chose d'anormal. Dites à la personne à côté de toi, c'est anormal. Et dit, c'est lui qui croira. Il dit bien, c'est lui qui croira. Vous savez, les amis, mieux vaut que les gens aillent en affaires, mais après avoir entendu. Mieux vaut que quelqu'un choisisse sa destinée, mais après avoir fait quoi? Entendu. Est-ce que vous savez que Dieu ne jugera jamais quelqu'un? Dieu ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité. Mais l'opportunité lui sera donnée comment? C'est quand il aura le temps d'écouter. Il faut écouter. Je vais vous le dire. Bientôt là. Celui qui croira, celui aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, et dit, celui qui croira, celui qui croira. Il dit, c'est lui qui croira. Quiconque, n'importe qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous? Attends, je reviens. Tu n'as pas besoin d'aller condamner quelqu'un parce que le fait de ne pas croire, il est déjà condamné. Tu n'as pas besoin d'aller condamner quelqu'un en lui disant, tu iras en enfer, tu as fait ceci, tu iras en enfer. Ne le condamne pas parce qu'il est déjà condamné. Le fait de refuser Jésus, il est d'office condamné. Voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, le fait de refuser Christ, il est condamné d'office. Ce n'est pas à toi de condamner. C'est pourquoi, vous voyez, normalement, nous ne pouvons pas amener un évangile de condamnation. Un enfant de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit d'amener un message de condamnation, parce que le fait de dire non à Christ, le fait de repousser l'évangile, il est d'office condamné. En fait, la personne se condamne lui-même. Alors, tu n'as pas besoin d'aller condamner quelqu'un qui est déjà condamné. Ne le condamne pas. Ne les condamne pas. Moi, j'ai béni le Seigneur. Taylor Sport nous a expliqué des choses. Il a dit, mais non, mais c'est ça, les chrétiens. Nous apportons un message de condamnation, de rigueur, comme si... Mais quelqu'un qui est déjà condamné, comment tu peux le condamner? Mais la personne qui est déjà condamnée, il est condamné. Il ne veut pas Christ. Il est déjà condamné. Pourquoi toi, tu veux le condamner? Apporte-lui une bonne nouvelle. Elle apporte une bonne nouvelle. On n'apporte jamais la bonne nouvelle avec un visage serré. L'enfer est devant toi. Et souvent, c'est ça. On apporte la bonne nouvelle, mais avec des attitudes terribles. Il y a un cours qu'on donne là-bas sur l'évangélisation à l'école biblique. Ça vaut la peine. Je crois qu'on va l'enseigner quand même à toute l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a une façon de transmettre la bonne nouvelle? Pose-toi la question. Vous savez que parler de Jésus n'a rien à voir avec des personnes spéciales. Oui, il y a des évangélistes. Oui, il y a des évangélistes. Oui, il y a des évangélistes que Dieu, qui ont un charisme, un talent, un don spécial. Mais attends, tout le monde n'est pas évangéliste comme Billy Graham. Mais regardez un peu, Billy Graham, combien de personnes qu'il a amené au Seigneur? Il y a 7 milliards de terriens. Il a pu faire ce qu'il a pu faire. Mais le plus grand Billy Graham, c'est toi qui me regardes. Parce qu'il y a des personnes que Billy Graham, il y a des personnes qui n'écouteront jamais Billy Graham, ni Benny Hinn, mais au moins ils vont t'écouter. Il y a des places où Billy Graham n'ira pas, au moins toi tu seras là. C'est toi qui iras. Actuellement, regarde, quand je regarde l'organisme de Billy Graham, la plupart des gens, comme il a vieilli maintenant, il est devenu tellement vieux, maintenant c'est comme si tous ceux qui travaillent dans ce ministère-là, donc bon, comme notre leader a vieilli, bon, maintenant nous tous on croise les bras, blablabla. C'est grave, parce que l'évangile ne peut pas être soudé à une seule personne. Si nous voulons gagner, si nous voulons faire du ravage dans une ville, il faut que chaque personne soit concernée. Hier, j'avais mentionné quelque chose de très puissant. Hier, j'avais dit quelque chose. Qui a saisi ce que j'avais dit hier? Quelque chose. Qu'au fur et à mesure, nous disons toujours, Seigneur, que peux-tu faire de moi? Au lieu de dire constamment, Seigneur, que peux-tu faire de moi? Qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Change. Seigneur, que pourrais-je faire pour toi? Et c'est là où vous allez voir. Le « que peux-tu faire pour moi ?» deviendra facile. Commence d'abord, Seigneur, que pourrais-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Mais souvent, c'est ça qui se passe dans les églises. Toutes nos prières sont concentrées. Seigneur, que peux-tu faire pour moi? Seigneur, que peux-tu faire pour moi? Alors, fais-le, fais-le, fais-le. Le Seigneur te pose la question, que peux-tu toi faire pour moi? Il faut que tu commences à poser la question. Seigneur, que pourrais-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je crois que si le Seigneur doit te répondre, la vraie réponse qu'il va te dire, c'est que tu connais tous ces gens qui sont tout autour de toi. Ils ont besoin de moi. C'est tout ce que le Seigneur ne te dira pas, fais ça, 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 ça. Il ne te dira même pas, va prier 17 heures. Rien. Il te dira, à côté, à quelqu'un. Il a seulement d'entendre que toi, tu lui parles. Au moins, il aura lui-même décrété son jugement. Parce que l'évangile, ou on la reçoit, ou on la rejette. Continue. Verset 17. Allez-y rapidement, 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. Hier, j'avais expliqué cela, 18, il dit ceci. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, quand on dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon, souvent, on ne voit pas des miracles parce que les gens n'imposent pas les mains. Et les gens parfois n'aiment pas imposer les mains parce qu'ils disent, oh non Seigneur, si j'impose les mains et que rien ne se passe. La première chose que tu dois savoir, arrêtez ça, ce n'est pas toi qui guéris, tout ce que le Seigneur te demande, impose les mains. Hier, je vous ai expliqué quelque chose de très, 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 très raffiné, hier je vous ai expliqué. Dans ce qui concerne la guérison divine. La guérison divine, tu peux prêcher la guérison divine et voir des gens être guéris. Mais pour que toi tu sois guéri, tu dois croire. Dans ce que Christ dit à propos de la guérison. Si tu ne le crois pas, tu peux aussi aller malade. C'est ça. Parce que l'onction est pour servir. L'onction n'est pas pour toi, mais l'onction est pour servir. C'est ça que vous devez comprendre. Quand Dieu nous donne l'onction, l'onction n'a jamais été pour nous-mêmes. L'onction est pour les autres. L'onction est pour les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malades, ainsi de suite. Dieu m'a oint. Dieu m'a donné la puissance, mais pour. L'onction est pour. L'onction est pour. La puissance que nous recevons est pour. Je l'ai dit, Dieu peut t'utiliser dans la puissance, être guéri, voir des malades guéris. Mais cette onction-là, pour que toi tu sois guéri, tu dois croire à qu'est-ce que Christ a fait à la croix. À propos de la guérison. Deuxième chose, il ne faut jamais penser que quand tu apportes le ministère de la guérison, que c'est toi qui guéris. C'est lui qui guérit. Ce qui veut dire, ne sois pas étonné si tu imposes les mains à quelqu'un, il n'a pas été guéri, maintenant tu ne dois pas te condamner. Vous entendez parfois les gens dire, oh oui. Mais tu ne sais pas que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Et je vous ai dit que les dons spirituels ne s'opèrent pas selon la volonté d'une personne. Les dons spirituels n'opèrent pas selon la volonté de la personne. Les dons, vous entendez bien, les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit déclenche les dons selon son vouloir. Qui est là? selon son vouloir. Quand le Saint-Esprit veut guérir, ce n'est pas selon la volonté du pasteur, ce n'est pas selon la volonté du prédicateur. Ce n'est pas par la volonté de l'apôtre, soi-disant, mais selon la volonté du Saint-Esprit. Et hier, je vous ai dit que le Seigneur, comme nous venons de le voir tout de suite là, allez-y, verset 19, appuyons. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. J'avais expliqué quelque chose, c'est ça. Continue. Verset 20, il dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher quoi? Partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Hier, j'étais en train de dire, ils étaient partis parler de qui? De Jésus. Et la Bible dit que Jésus faisait quoi? Travaillait. Regarde-moi, tant que toi, tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas sa part. Ils allèrent prêcher et Jésus travaillait avec eux. Qu'est-ce qu'il disait? Confirmer les titres d'apôtre. Non, Jésus confirmait quoi? La parole. Par quoi? Par les miracles qu'ils accomplissaient. C'est-à-dire, c'est la parole, après vient le miracle. Alors, ne courez pas derrière le miracle là où il n'y a pas la parole. D'abord, la parole, et Dieu ne confirme jamais l'individu, mais Dieu confirme la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, j'avais dit bien que le dernier parole de Christ était « Allez ». Je reviens que si nous avons eu l'opportunité d'honorer, d'honorer, de respecter des paroles que les gens ont dit avant de partir dans l'au-delà, mais pourquoi nous ne devons pas respecter, nous ne devons pas tenir compte de paroles que notre Seigneur Jésus a laissées? C'est pourquoi cette sixième semaine, nous sommes en train de parler sur, c'est une semaine spéciale de l'évangélisation. Une semaine spéciale, l'évangélisation. Le dernier mot que le Seigneur Jésus a dit, c'est d'aller prêcher quoi? L'évangile. C'est ça qui doit être, en fait, c'est toi même qui doit être le cerveau moteur, je ne dis pas de l'église, parce que l'église c'est toi, de chaque chrétien. Parce que souvent quand nous disons l'église, et certainement ce nom-là, l'église devient tellement traditionnel, ça devient tellement religieux, que quand on dit l'église, les gens parfois disent l'église. Mais alors que quand on personnalise cela, quand on dit l'église, ce qui veut dire toi, tu dois connaître les derniers mots que Jésus a dit. Et tu dois t'accaparer de ces derniers mots qu'il a dit. Allez, parle de moi. Chaque chrétien doit s'imprégner de derniers mots que son sauveur, son maître a dit d'aller. Maintenant, tu ne dois pas t'exclure. Parce qu'actuellement, je vous l'ai dit, je vois souvent les églises sont devenues tellement négligentes qu'ils disent seulement non, moi je n'ai pas ce talent-là. Mais tu sais, gagner les âmes n'a rien à voir avec le talent. Tout le monde ne seront pas des grands évangélistes comme dans les cinq ministères. Non, tout le monde est gagneur d'âmes. Tout le monde n'a pas l'appel d'un grand évangéliste avec les dons, les signes, les miracles. Mais tout le monde est gagneur d'âmes. Chaque personne qui est sauvée, il est automatiquement un gagneur d'âmes. Je peux vous le dire que l'église de Corée, l'église de Yongisho en Corée, est devenue la plus grande église, non pas parce qu'ils ont des grands évangélistes, non pas parce qu'ils font des grandes croisades. Ils ne font pas de croisades. Est-ce que vous savez que l'église de Yongisho, l'église, la plus grande église, qui a plus qu'un million, ils ne font pas de grandes croisades. Leur grande croisade, c'est que chaque personne ouvre la bouche. Leur croissance est basée sur la bouche, de bouche à oreille. C'est ça. La plus grande croisade qu'une église peut faire, c'est que quand chaque chrétien croit, réalise, il sait qu'il a une mission. Et cette mission-là, c'est exactement ce qui a poussé à Dieu de descendre du ciel et accepter d'être humilié par des individus, l'homme qu'il a créé à son image, l'humanité, le salut des hommes. Et si chacun de nous comprend cela, c'est fini. On arrêtera ce type de prière. Seigneur, tout le temps, que peux-tu faire pour moi? Fais-le. Mais tu diras, Seigneur, que pourrais-je faire pour toi? Et c'est ça qui va faire qu'il y aura un détachement, dites détachement. Un détachement, de, tellement, on adore tellement de choses. Le Seigneur nous regarde, il regarde actuellement, quand le Seigneur regarde l'Église, je disais cela tout de suite à quelqu'un dans mon bureau, est-ce que vous savez que même des païens commencent à se poser des questions sur quelque chose qui arrive? Même les gens du monde savent qu'il y a quelque chose qui erre dans les airs. Quelque chose s'en vient, mais ils ne savent pas expliquer c'est quoi. Mais même les païens savent qu'on n'est pas loin, mais il y a quelque chose qui arrive. Mais ils ne peuvent pas expliquer c'est quoi ça. Mais nous, les chrétiens qui avons la Bible, nous savons que ce qui arrive, c'est que le monde, ce qui erre dans le vide là, ce qui sent là, ce qui arrive, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. En fait, c'est l'enlèvement. C'est que les païens disent qu'ils sont en train de penser qu'il y a quelque chose, ça sent, il y a quelque chose qui arrive. Mais nous, les chrétiens, on ne doit pas ignorer. C'est l'enlèvement qui s'en vient. C'est l'enlèvement. Je sais que parfois, les chrétiens n'ont pas l'envie d'entendre ça. Il y a même, on a fait l'estimation, même aux États-Unis, qu'il y a même des chrétiens qui ne veulent même pas entendre parler de l'enlèvement. Ce qui veut dire que, hey, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Quand ils viennent, ils disent, Seigneur, engraisse-moi, engraisse-moi. Engraisse-moi, Seigneur, un peu de prospérité, et puis je serai bien. Engraisse-moi. C'est pourquoi on n'est pas apte. Je le dis toujours que les témoins de Jéhovah sont parfois plus habiles, tout en étant dans l'erreur, mais ils sont plus habiles. Parce qu'au moins, ils osent. Il vit sur quelle planète? Ici, sur Terre. Où ça? À Montréal. Ils vont dans quelle société? La même société où nous travaillons. Mais eux, ils trouvent le temps pour aller introduire des hérésies. Je dis bien des hérésies. Même pas la vérité. Mais toi qui as la bonne nouvelle, que fais-tu? Pose-toi la question, combien de toi as-tu frappé à la porte de quelqu'un pour dire que Jésus t'aime? Là-haut, pasteur, ça c'est trop demandé. Eh bien, c'est ça. Mais alors que nous avons l'Esprit de Dieu, tu te rends compte, étant avec le Saint-Esprit, si nous osons le faire, on ira loin. Je vous l'ai dit. Est-ce que vous savez que les témoins de Jéhovah sont en train de ratisser le Canada? Je crois que c'est le mouvement le plus puissant du Canada. Les témoins de Jéhovah, ils sont en train de prendre contrôle. Ils sont devenus très forts, très forts. Mais normal, c'est les chrétiens. Regardez-moi, même les sectes ont toujours des privilèges. Hein? Parce que les chrétiens, hey, ils sont là. Oh, Seigneur, écoutez, tout ce que les chrétiens disent, Seigneur, tu dois nous bénir. Tu l'as dit dans tes promesses. Ah là, là, ils vomissent toutes les promesses. Le Seigneur, tu dis, est-ce que tu es sauvé seulement pour ça? Non, j'aimerais bien que nous, j'aimerais bien que tu t'élèves. J'aimerais bien que tu t'élèves. J'aimerais bien que tu t'élèves. Non. J'aimerais bien que tu t'élèves. Lève-toi. Ne dites pas que tu n'es pas capable. Mais il y a certainement quelqu'un, quelque part, dans cette ville, qui doit recevoir le salut, mais au travers de toi. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il ne regardera pas une émission de télévision, je ne sais pas. Mais seulement Dieu le mettra sur ton chemin. Dieu va le mettre sur ton chemin. Et cette personne-là, l'unique moyen pour qu'il soit sauvé, c'est au travers de toi. Il faut penser à ça. Pensez à ça qu'il y a quelqu'un certainement quelque part. Hier, je vous ai donné 4 raisons en bref qui nous poussent d'aller parler de Jésus-Christ. Premièrement, j'avais dit, première raison, c'est que nous apportons une bonne nouvelle. Comme j'avais dit depuis le début, n'allez pas condamner les gens, mais Jésus, il est une bonne nouvelle. Deuxièmement, nous offrons l'espérance d'une vie changée. L'évangile change la vie. Troisième raison, tu es un courtier. Tu es courtier de l'éternité. Nous sommes des courtiers de l'éternité. Quatrième raison, je me prépare pour des récompenses. Je me prépare pour recevoir ma récompense. Alors, j'aimerais bien aller rapidement, parce qu'il faut quand même que je vous l'explique si j'ai quelques temps. J'aimerais bien expliquer. Premièrement, nous avons dit que la raison numéro un qui doit t'exciter, je ne dis pas qui doit nous, mais qui doit toi te prendre dans le cœur. Premièrement, l'évangile. Vous savez que Jésus, tu dois avoir la joie de parler de Jésus. Tu dois être content. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas honte. Vous savez, moi, ce que je dis toujours, je dis, Seigneur, moi, tout ce que je te demande, c'est la force physique. Parce que l'esprit, la puissance, là, quand je me mets à genoux, l'onction descendra. Mais tout ce que j'ai besoin, Seigneur, donne-moi la force physique. Tout ce que j'ai besoin, c'est la force physique. Et à un moment, je dis, Seigneur, aussi, je pourrais revenir à 25 ans. Je ferai plus de dommages dans le royaume de Satan. Mais je ne le regrette pas. Je dis, je vais saisir avec le peu d'énergie qui me reste. Je vais tout bousiller. Les amis, l'évangile. Je me souviens, je travaillais en France, je faisais la distribution des journaux. Vous savez, hein? Quand on est encore jeune, tout. Alors, pour ceux qui connaissent la vie de Paris, alors, pour gagner un peu de sous, je devrais distribuer des journaux. Alors, on avait des vannes comme ça, parce qu'il fallait que je paye quand même mes études. Alors, des vannes comme ça, alors, on entrait dans des vannes avec plein de journaux. Alors, on distribuait. Il fallait, du matin jusqu'au soir, tu as fait je ne sais pas combien de kilomètres. Mais alors, à un certain moment, ça me bouillonnait tellement dans mon cœur. Je disais, tu te rends compte, regardez comment je souffre, même mes muscles le soir. Moi, j'étais célibataire, personne ne pouvait masser mes pieds, ainsi de suite. Tu es arrivé avec des douleurs, des ampoules aux pieds. Mais je me disais, si j'investis autant d'énergie pour avoir je ne sais pas combien de francs au cours de la semaine, je dis, oh non, ce qui va arriver, va arriver. Maintenant, j'allais prendre tous les pamphlets d'évangélisation. Vous voyez parfois, Évangile Saint-Jean, tout. Qui connaît ces petits pamphlets-là? Maintenant, je les mettais dans mon manteau-là. Il faisait très froid. Quand je prenais le journal, je le mettais à la porte. Je prenais aussi l'évangile, je le glissais là-dedans. Et finalement, je vous le dis, j'ai fait les tapages. Partout, je glissais, je mettais sur la porte d'entrée le journal et mon évangile selon Jean. Journal plus évangile. Je dis, de toute façon, on ne saura pas qui est passé par là. Parce que de toute façon, il y a plein de gens qui déposent. Tout simplement parce que ça brillait dans mon cœur. Ça brille tellement dans mon cœur. Ça brille. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Attends, non. Les amis, il faut que tu aies du zèle. Dites du zèle. Il faut être zélé. Les amis, soyez zélés. Est-ce que vous savez que je n'oublierai pas une vieille dame? Je ne sais pas si elle est déjà décédée. Une vieille dame haïtienne, ici, dans les années 91, qui distribuait avec moi des pamphlets d'évangile. Elle avait 84 ans. Vous voyez un peu les maisons là, des escaliers extérieurs là. En hiver, elle montait comme ça. Parfois, je l'attendais, elle montait. À 84 ans, elle risquait, elle montait dans ces escaliers, elle mettait des pamphlets, je la regardais, je dis, Seigneur, moi j'ai encore de l'énergie. Seigneur, quand je la voyais, elle était tout un message pour moi. Quand je la voyais distribuer les pamphlets, je disais, cette dame, elle est une lettre écrite. Est-ce que vous savez que la Bible dit que les chrétiens doivent sont des lettres écrites? Il y a d'autres moments, ils n'ont pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin de parler. Mais ses actes, c'était une lettre. Mais quand je regarde parfois les jeunes, des personnes avec un peu de vitalité, quand je les compare à cette vieille dame de 84 ans, mais elle ne vivait que de distribuer des pamphlets. Et toute sa vie était distribuer les pamphlets de l'évangile. Quelle vie, quelle puissance, quelle énergie pour son maître. Les amis, il faut que chacun de nous tienne compte de cela. Allons. Deuxième raison que j'avais donnée, non seulement la première raison que l'évangile est une bonne nouvelle, deuxième raison, c'est que nous apportons l'espérance d'une vie changée. Lisons un peu dans Jacques chapitre 2, verset 14. Allons-y rapidement. Jacques chapitre 2, verset 14. Comme ça, nous allons aller rapidement pour qu'on termine. Jacques chapitre 2, verset 14 à 18. Jacques chapitre 2, verset 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas quoi? Les œuvres. La foi peut-elle le sauver? Continue. Verset. Et dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, continue, verset 16, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 17, il dit, Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ici, Jacques est en train de dire quelque chose. Dites quelque chose. Est-ce que vous savez, il y a des moments où nous disons, mais comment prêcher? Comment témoigner? Comment? Et Jacques donne un exemple. Si un frère trouve quelqu'un sans habit, sans nourriture, et lui dit, sauve-toi, que le Seigneur te bénisse, que l'amour de Dieu te couvre. Entre-temps, toi, tu peux l'aider. Et tu dis, non, j'ai la foi. Oh, alléluia, je prierai pour toi. Alléluia. Mais entre-temps, va, débrouille-toi, mais je prierai pour toi. Est-ce que vous savez que Jacques dit que quand tu dis que tu as la foi doit être accompagnée de quoi? Des actes. Est-ce que vous savez qu'il y a l'Église ne peut pas se dissocier de l'action communautaire? Quand l'Église dit que nous avons la foi, vous ne pouvez pas vous séparer de l'aide que vous pouvez donner aux nécessités. Est-ce que vous savez que le simple parole n'est pas suffisant? Il y a d'autres paroles pour les avoir. Il faut que les paroles soient accompagnées de quoi? Des actions. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Le Seigneur dit, vous dites que vous avez la foi. Vous êtes sauvés. Vous avez Christ. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à ceux qui ne me connaissent pas, mais qui n'ont rien à manger? Vous ne savez pas que ces gens-là, en allant avec quelque chose, il y a quelqu'un qui a dit, oh, j'avais pris note de quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose. Oh, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, oui, il dit, pour entrer dans la vie de quelqu'un, on ne doit pas passer par sa tête, mais par son cœur et même par son estomac. Je dis bien. C'est quelqu'un. Quelqu'un a dit, pour entrer dans la vie de quelqu'un, on ne doit pas passer par sa tête, mais par son cœur et amen. Et même par son estomac. Tes actes de bienveillance, comme ceux de Dieu, conduisent les gens à la repentance. Romains chapitre 2, verset 4. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes? Le fait de faire un geste, dites un geste, un plat, un petit plat, peut ouvrir la porte au salut à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le besoin, un plat, un habit, peut ouvrir le cœur de la personne au salut. Les actes, quand on dit qu'on a la foi, quels sont les actes que nous posons? Les amis, il y a d'autres compatriotes. Toi, tu connais parfois des compatriotes. Tu sais que le fait de dire seulement « Jésus t'aime » n'est pas suffisant. Mais tu sais que parfois, il est dans le besoin. Dites « il est dans le besoin ». Maintenant, à la place de non seulement Jésus t'aime, ajoute l'acte. Ces deux choses-là vont conquérir son cœur. Au lieu de dire Jésus est mort à la croix pour toi, commence d'abord parfois par un geste. Et puis quand tu vas ajouter que Christ t'aime, cet amour-là de Dieu sera facile à avaler. Pourquoi? C'est parce que tu as posé un geste. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous savez? Oh, vous savez, nous pouvons nous jeter à terre ici en disant, Seigneur, nous prions, libère les âmes. Mais le Seigneur te dit, ok, je vais te parler comment libérer les âmes. Parce que nous devons faire attention de tomber dans la routine, de prier seulement, Seigneur, nous réclamons des âmes. Mais il y a des façons de s'approcher de ces âmes. Il y a d'autres façons de s'approcher d'eux. Parfois, c'est un compatriote. Parfois, c'est un membre de famille. Il y a d'autres personnes, parfois, vous êtes de même communauté. C'est votre compatriote. Et j'ai toujours dit, je crois que ça serait bien que tu ailles vers ton compatriote. Va trouver un compatriote et parle-lui de Jésus. Mais tu sais, parce que parfois tu es plus proche de ses compatriotes que tu connais ses besoins. Et connaissant ses besoins, résout d'abord son besoin. S'il a besoin de manger, je crois que donne-lui à manger. S'il a besoin de je ne sais pas de quoi, donne-lui un habit. Apporte-lui l'aide, parfois matériellement, tu me dirais, mais pasteur, mais moi-même, je n'ai pas le matériel, qu'est-ce que j'apporterai? Exactement, c'est là où se trouve le problème. Parce que toi, tu penses qu'il faut d'abord avoir beaucoup pour apporter l'aide. Mais exactement, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Est-ce que vous ne savez pas que l'acte que tu commets, même dans le manque, personne ne peut dire qu'il manque quelque chose. Non, tu as quelque chose à donner. Tu auras toujours quelque chose à donner. Écoutez, personne ne peut dire qu'il n'a rien à donner. Tu auras toujours quelque chose à donner. Et les amis, je vais vous dire quelque chose. La vraie façon de s'approcher des gens, il y a d'autres personnes, il faut s'approcher en pourvoyant à son estomac. Moi, je me souviens, dans les années 91, quand on était arrivé, et je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé? On allait prendre du pain dans les églises catholiques, à Scott-Vertu. Mais ce qui m'étonne, on se retrouvait là, plein des jeunes qui venaient, des vieilles, et les gens distribuaient les pains. Mais malheureusement, j'étais là. Même après avoir nous donné du pain, on nous laissait plus partir affamés. Parce que l'estomac était rempli, mais notre esprit était vide. Un jour, j'ai demandé, est-ce que quand même nous venons manger pour l'église ici, mais pourquoi ne pas prendre quelques minutes de nous parler de Dieu? Elle a dit, oh non, 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 on est là seulement pour aider. Les amis, vous savez, au ciel, il y a d'autres personnes, le ciel même ne le verront pas. Jésus-Christ a dit, vous pharisiens, vous comptez fermer des portes aux gens, vous pensez que vous entrerez, vous n'entrerez pas. Les amis. Mais moi, j'apprécie beaucoup parfois les actes, les œuvres humanitaires qu'ils peuvent faire. C'est pourquoi moi, je n'ai pas besoin de recevoir l'aide, je ne sais pas de qui là, pour me donner des instructions que non, tu peux distribuer, mais ne parlez pas de Dieu. Garde ta nourriture. Je préfère que ça sorte de nos poches et nous sommes libres de dire ce que nous pensons. Parce que quand on commence à vous donner, vous êtes ici là, avec toutes les conditions. Vous devenez seulement des humanistes. On vous met une corde ici là. Les amis, il faut que tu te réveilles. Les amis, chacun de nous ici, s'il met même 20 dollars en jeu, il dit, Jésus, je vais t'investir ces 20 dollars. J'aimerais bien acheter même des boîtes, je ne sais pas quoi, des boîtes de conserve non périssables. Nous allons les mettre ici. Et nous allons donner les annonces dans le bien-être social que tel jour, nous allons distribuer ça aux gens de démunis. Même si nous ne leur parlerons pas le même jour de Jésus. Mais au moins, ils viendront. Quand ils vont prendre cela, ils vont poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est là où vous leur direz. Nous, le dimanche aussi, on se réunit ici pour avoir du bon moment. Si tu veux venir avoir du moment, viens louer avec nous. Je vous l'ai dit. Il va penser même aux boîtes de conserve que vous lui avez données. Il a dit, ces gens-là, ils ont de l'amour quand même. Et puis on ira voir c'est quoi ça. Vous voyez comment on peut amener des âmes au Seigneur. Qui comprend ça? Mais malheureusement, on est tellement égoïste qu'on bloque tout ça comme ça. Et depuis qu'on bloque tous ces sous-là, il n'y a rien qui progresse. Les amis, Jésus-Christ dit, à quoi ça sert de dire que tu as la foi, mais sans les œuvres? À quoi bon dire que tu as Jésus, mais sans des actions? Tu restes seulement là. Dieu, que peux-tu faire? Lisez dans le livre de Matthieu, je crois, où Jésus-Christ a dit, ces jours-là, je vous dirai, j'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. J'étais malade, tu n'étais pas venu. Blablabla. Et puis les gens diront, Seigneur, quand est-ce que Seigneur? Je vais m'arrêter ici, mais demain, je vais continuer cette étude. Je vais continuer cela, parce que ça, ce n'est que le commencement. Les amis, Jésus dira, mais j'étais ni, vous ne m'avez pas habillé. J'étais ni, vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous m'avait laissé en prison. Seigneur, quand? Quand est-ce que tu es en prison? Seigneur, arrête. Toi, tu étais au ciel, le riz était en or. Comment? Il dit, c'est quand chacun de vous, si quand quelqu'un était là, il avait besoin de votre aide et que vous n'avez rien fait. Les amis, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Répétez, restez dans ça. À quoi sert de dire, nous, j'ai la foi, mais qui n'est pas accompagné de quoi? Des actes. Est-ce que vous savez que maintenant, chaque coin, chaque place, chaque environnement a sa façon de faire les choses. Maintenant, vous savez, il y a d'autres personnes, parfois, ce n'est pas avec une boîte de concert. Mais il y a d'autres vieillards qui sont dans les maisons. Dans les maisons de vieillards, là, ils ont seulement besoin que vous alliez parfois les aider à pousser. Il y a d'autres qui ont des rendez-vous. Il y a d'autres qui ont des rendez-vous. Ils n'ont personne pour les pousser. Pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas avoir une équipe de bénévoles qui peuvent aller se présenter dans ces maisons-là? Telle date, oui, vous aurez des rendez-vous. Nous avons une équipe de bénévoles, au moins de 20 personnes. Est-ce qu'on peut vous aider à pousser ces chaises roulantes? Qui vous êtes? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes de telle église. On aimerait bien être des bénévoles. Vous aidez telle date. Vous ne savez pas ce que ça fait. J'étais dans la maison des hommes de vieillards. Je n'avais personne pour me pousser. Mais Seigneur, quand est-ce que tu étais dans la maison des hommes de vieillards? Vous savez qu'on peut être indifférent. On est là dans la société. Finalement, on est embarqué dans cette indifférence-là où même les enfants s'en foutent de leurs vieux papas qu'ils ont laissés dans ces maisons-là. Mais alors que leurs parents les ont aidés quand ils étaient jeunes, dans ces pays de froid-là. Mais est-ce que nous aussi, nous voulons tomber dans cette indifférence? Nous voulons tomber? Mais c'est ça que nous sommes devenus. C'est là où nous sommes devenus. Nous tombons dans cette indifférence-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes là. Nous disons, Seigneur, que peux-tu faire pour moi? Que peux-tu faire? Mais le Seigneur dit, tu sais, moi, vous êtes maintenant 7 milliards. Et je ne veux pas que tous ces milliards aillent en enfer. C'est tout ce que je vous dis. Seigneur, moi je ne sais pas prêcher. Maintenant, regarde, le Seigneur vous montre les moyens, ta façon de prêcher. Seigneur, moi je n'ai pas toute une autre, je n'ai pas de verset. Le Seigneur te dit, regarde, maintenant je te montre comment vomir tes versets. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Les amis, tous ne viendront pas en écoutant. Bon, maintenant, je vais te lire tel verset. Non. Les gens, parfois, sont fatigués de ça. Mais parfois, avec des actions. C'est les actions qui vont leur toucher. Quand on va présenter Jésus, leur cœur était préparé. Ne sois pas indifférent. Parce que tu es là tout le temps à nous poser des questions. Et comment moi-même, je n'ai même pas le temps. Pasteur, moi-même, je n'ai même pas le temps. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui a le temps? Mais si tu attends à avoir le temps, tu vivras seulement pour toi-même. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, nous vivons pour nous-mêmes? Nous vivons, et nous vivons dans une société tellement égoïste que l'homme ne vit que pour lui-même. Tout ce qu'il fait, moi je vis pour moi-même. Moi je vis pour moi. Ah, tu vois mes vacances. Ah, tu vois ceci. Tout est calculé. Égoïste. Le Seigneur te dit, est-ce que tu ne peux pas sacrifier même une vacance? Pour moi, tu ne peux pas sacrifier même 5 jours. Pour moi? Et puis tu dis, alléluia! Il dit, arrête ça. Combien de temps que tu as pris de vacances? Tu ne peux même pas sacrifier 3 jours de tes vacances pour dire, je vais me mettre à disposition. J'aimerais bien poser des gestes. Les amis, il faut que l'église se réveille. Les amis, l'église doit se réveiller. Moi, je suis en train de voir, je suis en train de penser à des choses. Écoutez-moi bien, les amis, l'église n'est pas arrivée là où on doit arriver. L'église doit se réveiller parce que maintenant nous sommes en train de commencer. Nous ne sommes pas arrivés même au milieu, mais nous sommes en train de commencer. Il y a tellement de ministères à accomplir. Lèvons-nous tous ensemble.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.